Le billet politique, Frédéric Seitz, le conseiller et le décideur.
Oui, il nous faut évoquer ce matin une fonction qui flirte avec la politique sans jamais conclure au grand jour avec elle. Il s'agit de la fonction de conseil. Un exemple a fait l'actualité récemment à Lille, dans les Hauts-de-France. La candidate En Marche pour les municipales a décidé de congédier son directeur de campagne. Celui-ci s'appelle Dominique Bailly. C'est un ancien sénateur qui a d'ailleurs manifestement gardé ses entrées à la Chambre haute. Selon nos confrères du Point et de la Lettre A, Dominique Bailly a convaincu les sénateurs de voter contre une mesure présentée par le gouvernement, une mesure technique qui prévoyait de consigner les bouteilles en plastique. Pourquoi cela? Eh bien parce que Dominique Bailly a cofondé une société de conseil qui a pour client, toujours selon nos confrères, la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage, et cette fédération, ce lobby, rejette absolument la mesure du gouvernement qu'il juge trop complexe. Ainsi, la position de Dominique Bailly a-t-elle été jugée intenable? À Lille, soutien du macronisme municipal, à Paris, opposant au macronisme gouvernemental, il y avait en effet de quoi risquer l'élongation. Cette histoire est intéressante parce qu'elle illustre plusieurs constats. D'abord, cet épisode démontre combien l'activité de conseil est devenue un refuge pour les anciens élus. Nombre d'entre eux, balayés dans les urnes, ont fondé leur cabinet de conseil, en général d'ailleurs avec une inventivité, disons, limitée pour choisir le nom de leur société. Le plus souvent, vous prenez leurs initiales, vous rajoutez partners ou conseil pour faire sérieux et le tour est joué.
Bon, mais il n'y a rien d'illégal à cela.
Non, il s'agit de faire fructifier un carnet d'adresses rempli au cours de votre carrière politique et souvent une connaissance des rouages de la décision publique. Par ailleurs, ouvrir une société de conseil, cela aide à garder un pied dans les affaires publiques, à conserver un réseau d'interlocuteurs et accessoirement à maintenir un revenu en attendant des jours meilleurs sur la scène électorale. Certains revendiquent même cette activité ou celle d'avocat comme une preuve qu'ils connaissent la vraie vie, le monde professionnel, l'entreprise, bref, pour éviter d'être hors sol, comme le plaide ici Jean-François Copé.
Que je continue de dire que ce serait une grave erreur d'interdire la possibilité pour les parlementaires d'exercer, s'ils le souhaitent, des professions. L'Assemblée nationale ne peut pas être hors sol.
Jean-François Copé, en 2013, depuis, plusieurs lois ont restreint cette possibilité pour les parlementaires d'exercer le métier de conseil ou d'avocat. Mais revenons à notre directeur de campagne à Lille, visiblement trop influent à Paris. Cet exemple pose aussi une question intéressante. Dans notre République de la transparence, comment cela a-t-il été possible? Eh bien, tout simplement car le projecteur est braqué sur les élus, mais le faisceau oublie leur entourage. Dans la foulée de l'affaire Cahuzac, la loi sur la transparence a imposé un contrôle très scrupuleux, on le sait, des responsables politiques. Vous le savez, ils doivent désormais détailler leur patrimoine, leurs intérêts, leurs emplois passés, mais aussi la marque de leur voiture, son année d'achat, les activités des enfants, des parents, des conjoints. En revanche, rien sur ceux qui gravitent autour des politiques, sans statuts officiels, les hommes et femmes de réseau qui jouent de leur entre-gens et de leurs compétences pour influer, pour modifier, pour tirer profit de la décision politique.
La lecture d'un livre paru ces jours-ci montre à quel point les règles sur la transparence visent parfois à côté.
L'affairiste, c'est le titre de cette enquête signée des journalistes Simon Piel et Johan Tilouin, consacrée à Alexandre Djouri, cet intermédiaire sulfureux au croisement des réseaux chiraciens, de la diplomatie française et du business entre l'Afrique et le Moyen-Orient avec la France, a su se rendre indispensable à de nombreux décideurs publics et privés. Il affiche, selon les auteurs, un train de vie munificant. Or, aucune des drastiques lois actuelles n'aurait fait apparaître son nom. Il est un ami, une connaissance, un proche, déclarent plusieurs ténors politiques interrogés dans le livre. Et l'amitié, eh bien, ça ne se déclare pas à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Les conseilleurs ne sont pas les payeurs, dit l'adage, mais en politique, ils sont bien souvent les payés.